le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sarthe au naturel.
C'est l'hiver et même si les arbres n'ont plus de feuilles, ce n'est pas une saison morte pour autant. C'est la période pendant laquelle le département plante et entretient ses arbres, dans le cadre notamment de sa politique 10 000 arbres pour demain. Alors comment le département gère-t-il son parc arboricole? Pour le savoir, nous recevons Jean-Charles Gélan, gestionnaire du patrimoine arboré du département de la Sarthe. Il nous donnera aussi quelques conseils pour savoir comment et quoi planter si on veut aussi avoir des arbres dans son jardin, par exemple sur son terrain, et comment les entretenir. Bonjour Jean-Charles Gélan.
Bonjour.
Votre secteur a deux actions principales, les bocages et la gestion des arbres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent d'abord ces deux missions largement ?
Alors, en fait, oui, je fais partie du Bureau patrimoine naturel et espaces verts qui a plusieurs missions. La première, c'est la gestion du patrimoine arboré du département de la Sarthe. Donc, c'est les arbres qui sont sur les propriétés du département. Donc, à savoir les arbres d'alignement le long des routes départementales, les arbres dans les cours de collège et puis les arbres dans les parcs, comme le parc de l'Abbaye des Pots, par exemple, ou le parc Victor Hugo en centre-ville du Mans. Ensuite, nous animons la politique bocage du département, donc là qui est une volonté de nos élus de replanter des arbres sur nos propriétés, donc toujours à peu près les mêmes, avec un budget annuel alloué pour cela. On a aussi en termes de mission l'animation de deux sites Natura 2000, la politique bocage aussi du département, puisque depuis très longtemps, le département accompagne les Sartois à la replantation de haies champêtres, mais pas que. Ça peut être des petits bosquets, ça peut être des vergers avec des fruitiers greffés. Et puis, ça s'est étendu aussi à la création et restauration de mares. Et puis, on a d'autres missions par rapport à la biodiversité, donc biodiversité liée au bâti ou alors la mise en place de mesures compensatoires pour restauration de milieux naturels dans le cadre d'aménagement routier.
Alors, je reviens un moment sur cette mission bocage, vous accompagnez des particuliers. Pourquoi cet accompagnement de la part du département, en fait ?
C'est une politique qui a été mise en place, je le disais, depuis très longtemps. Ça fait suite à des remembrements qui ont eu lieu sur le département dans les années 70-80, où il y a eu une modernisation de l'outil agricole et donc forcément de l'agrandissement des parcelles, qui étaient des petites parcelles de moins d'un hectare et qu'on a agrandi à plusieurs hectares. Et forcément, ces petites parcelles étaient bordées de haies et ces haies ont été arrachées dans le cadre des mouvements parcellaires. Et à l'époque, il n'y avait pas de vraie politique de replantation dans le cadre des remembrements, contrairement à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc le département a souhaité préserver et replanter et recréer du bocage, puisque le département de la Sarthe fait partie du bocage du Grand Ouest, et donc a vraiment une identité de bocage, et donc a voulu préserver cette identité-là en subventionnant la replantation de haies auprès des Sartois qui voulaient le faire chez eux.
Mais du coup, cet accompagnement, il consiste en quoi concrètement ? Vous apportez des conseils ? Comment ça se passe ?
Oui, exactement. Quand quelqu'un nous sollicite pour avoir une subvention, en fait, la première des choses, c'est qu'on se donne rendez-vous et on va sur place et on va donner des conseils techniques auprès de la personne qui souhaite faire des plantations. Parce que ce n'est pas juste un soutien financier, c'est aussi un accompagnement technique sur comment préparer son sol, quel végétaux choisir en fonction de quelle nature de terrain on a, en fonction aussi de nos objectifs, si on veut faire du bois de chauffage, si on veut plutôt faire de la haie fleurifère, si on veut avoir des grands arbres, des petits arbres, etc. Donc tout ça, c'est le rôle du technicien qui se déplace pour vraiment accompagner et répondre au mieux à la demande des candidats planteurs.
Et donc en ce moment, au département, vous êtes en pleine période de plantation d'arbres. Pourquoi planter en hiver ?
Alors, on préfère planter en hiver, même si on peut planter un peu toute l'année, mais c'est beaucoup plus compliqué quand les arbres ont des feuilles parce qu'on a des gros risques de manque d'eau. L'hiver, en fait, la plante est en repos végétatif et donc sollicite moins le sol pour pomper de l'eau. Et puis, l'intérêt de planter en hiver et assez tôt en hiver, c'est que souvent, nous, on plante des végétaux plutôt en racines nues, donc des végétaux de petite taille. Et même si d'apparence il ne se passe pas grand chose au niveau de la partie aérienne, dans le sol déjà en fait il y a une production de racines qui vont permettre à la plante de bien démarrer au printemps.
Donc, qui ne sont pas menacées en cas de gel par exemple ?
Non, parce qu'en fait la terre est un bon isolant, donc une plantation qui est bien faite, donc pas des racines à l'air. Donc ce qu'on appelle le collet, donc c'est la partie qui différencie la partie racinaire de la partie de la tige. Il faut que le collet soit bien positionné au niveau du sol et pas trop profond ni trop au-dessus. Et dans ces conditions-là, on a, en général, le gel n'est pas un problème. C'est plutôt des racines qui peuvent rester à l'air trop longtemps ou qui pourraient être des végétaux qui pourraient stocker à l'extérieur et qui prennent la pluie ou le soleil. Et le gel aussi, quand les racines sont à l'air, là, ça peut être problématique.
Et alors, votre action elle s'inscrit dans la politique 10 000 arbres pour demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, cette politique?
Donc, c'est une volonté de nos élus de replanter un maximum d'arbres sur nos propriétés. Donc, notamment, ça peut être sous forme d'arbres d'aliments le long des routes départementales, mais aussi pas mal de replantations dans les cours de collège. On a eu plutôt une période où l'arbre dans la cour de collège était plutôt vu comme une contrainte, il faisait beaucoup de feuilles, et voilà, il fallait nettoyer, etc. Ça faisait de l'ombre dans les salles de classe, etc. Et puis, le réchauffement climatique étant là, on a de plus en plus de phénomènes de canicule et on se rend compte que nos cours de collège deviennent des fours, entre guillemets. Et donc, on cherche à recréer des îlots de fraîcheur dans les collèges et puis en même temps à améliorer aussi le cadre de vie des collégiens.
Donc, ce qui était vécu comme une contrainte avant devient un avantage aujourd'hui, en fait.
Oui, voilà. Donc, il y a une vraie demande de la part des collèges, des établissements de replanter des arbres dans les cours, de recréer des îlots de fraîcheur.
Et donc, c'est sur quelle période vous avez dû retirer les arbres dans les cours des collèges et lycées?
En fait, c'est pas une période en soi. C'est, on va dire qu'il y a vraiment plutôt une prise de conscience depuis l'après-Covid, en fait, c'est depuis le Covid, on peut dire qu'il y a vraiment une demande de replanter des arbres dans les cours de collège.
Et ça représente combien d'arbres aujourd'hui en Sarthe, combien gérés par le département en tout cas?
Alors, de manière, on va dire, plutôt individuelle, à l'individu arbre, on a plus de 10 000 arbres inventoriés, donc c'est quand même un patrimoine assez important. Et puis aussi, après, on a plutôt des peuplements, donc on peut avoir à gérer. Donc ça peut être des talus boisés bord de route, ça peut être des délaissés boisés, etc. Mais vraiment, la gestion à l'arbre, c'est 10 000 arbres. Et donc ça représente un gros travail de surveillance pour faire en sorte que ces arbres-là soient en bonne santé et surtout pas dangereux pour les usagers, soit des collèges, soit des routes.
Et question bête, mais à quoi ça sert les arbres? Alors vous y avez déjà un peu répondu en parlant des cours, des collèges, etc. Mais de manière générale, pourquoi est-ce que vous plantez des arbres au département?
Le premier rôle, c'est bien, on parle beaucoup de gaz à effet de serre et de rejet de carbone dans l'air. L'arbre permet de stocker du carbone dans son tronc, dans ses branches, dans le sol aussi. Il permet aussi d'améliorer la qualité de l'air en ville. C'est des filtres à particules, en fait. Ça permet aussi de fixer les particules fines qui sont dans l'air. Ça permet aussi de rafraîchir l'air parce que tout le phénomène d'évapotranspiration, donc l'absorption de l'eau dans le sol qui se rejette par les feuilles, permet de rafraîchir l'air ambiant. Et puis, il y a aussi l'ombrage apporté qui permet de réduire la température. Quand on roule sous les alignements d'arbres, on se rend compte en été que dès qu'on passe sous les arbres, c'est beaucoup plus frais. Voilà, donc c'est un sentiment de bien-être, un sentiment aussi de bien-être de par la présence de la verdure qui est prouvée, qui améliore aussi le sentiment de bien-être des usagers.
Pardon. Oui, donc c'est pas simplement une préoccupation de faut reverdir le paysage, c'est que ça...
Non, c'est vraiment une démarche complète de stockage carbone. Donc on fait aussi des replantations de boisement pour essayer d'en stocker un maximum sur nos emprises, et puis de paysage, de santé, voilà, de santé publique, etc.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous plantez, en fait? Est-ce qu'il y a des espèces particulières qui sont plantées?
Historiquement, on a une politique bocagère, donc on essaye de respecter un peu les essences locales qu'on trouve chez nous. Donc il y a des arbustes, il y a des arbres de moyen développement, des grands arbres, donc ça peut aller du cornouiller sanguin, par exemple, pour l'arbuste, au charme, à l'érable champêtre pour les moyens, et puis les grands arbres, ça va être le chêne, le merisier, l'érable, etc. Donc là, on est sur des essences champêtres, donc quand on replante des haies dans notre milieu rural, on essaye plutôt de rester sur des essences locales champêtres, qui s'intègrent bien à notre paysage de bocage. Et puis après, quand on se rapproche de la ville, où on a en alignement ou dans les cours de collège, on peut se permettre aussi d'aller planter des arbres plutôt dits d'ornement, donc ils vont peut-être être plus intéressants de par leur couleur de feuillage, par leur floraison. Donc essayer d'amener d'une certaine diversité. Et puis la diversité est aussi importante dans le choix des essences, parce qu'on voit par exemple, quand on a des maladies qui s'installent sur une espèce d'arbre, c'est bien d'avoir une diversité d'espèces pour éviter d'avoir tout le patrimoine mis en péril.
Et alors, pour donner quelques conseils à nos auditeurs, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on veut planter un arbre chez soi, si on a un jardin, un terrain? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on choisit son arbre?
Alors déjà, quand on veut planter un arbre, il faut déjà se poser la question, comment sera mon arbre quand il sera adulte, quelle taille il va avoir, parce que effectivement, il ne faut pas aller, je vais caricaturer, mais planter un platane dans une petite courette de 10 mètres carrés, parce qu'à un moment, ça va poser problème. Donc il faut bien prendre en compte la taille de l'arbre adulte et pas la taille de l'arbre au moment où on le plante. Je dirais qu'idéalement, plus on plante petit, des petits sujets, mieux ça s'installe et mieux ça se développe. Plus on plante gros, plus il va y avoir le stress de la transplantation qui va être présent et plus les arbres vont avoir du mal à s'installer. Donc nous, on essaye de planter plutôt du petit. Donc pour Noé, c'est du jeune plant forestier. Donc c'est des plants qui ont 1 ou 2 ans de pousse seulement. Et puis après, quand on veut aller sur des ébauches d'arbres, on plante des arbres qui ont 4-5 ans. Et voilà, on va pas au-delà.
Et alors tout à l'heure, vous aviez mentionné l'importance de la nature du sol, parce que tous les arbres ne peuvent pas survivre dans tous les types de sols. Il y a plusieurs types de sols d'ailleurs, juste dans le département.
Oui, on a, dans le département, en fait, on a vraiment des paysages différents qui sont liés à des contextes géologiques différents. Donc on peut avoir des terrains très calcaires, comme on peut avoir des terrains très acides et des terrains très argileux ou très sableux. Donc suivant l'endroit où on se trouve, on ne va pas trouver la même végétation de manière spontanée. Nous, c'est d'ailleurs un des critères quand on vient chez des candidats planteurs pour choisir, pour les conseiller au niveau du choix des végétaux. Ben on regarde s'ils poussent autour de chez eux naturellement et on a des plantes qui sont plutôt indicatrices. Donc par exemple, on ne va pas trouver du châtaignier sur des terrains très calcaires. Et à contrario, on va pas trouver du city sur des terrains très acides. Donc voilà, donc on va regarder ça. Et donc en fonction de ces essences-là, on sait que telle ou telle espèce va pas être adaptée à certains types de milieux.
Et alors quand on n'achète pas des essences d'arbres, mais un arbre qui a déjà bien poussé, quelles précautions à prendre pour le déraciner, le transporter, le replanter ?
Alors avant même de le planter, il faut déjà bien préparer son terrain. Si vous plantez un arbre dans un terrain très compacté, eh bien, il va avoir du mal à pousser. C'est comme si vous le mettiez dans un pot de fleurs, les racines vont avoir du mal à se déplacer. Il faut bien penser qu'un arbre, c'est aussi avant tout un système racinaire qui doit bien fonctionner. Et pour qu'un système racinaire fonctionne bien, il faut que la terre soit bien ameublie pour que les racines puissent bien s'y développer et puis qu'elles trouvent aussi l'humidité et l'oxygène pour fonctionner. On oublie souvent, mais les racines ont besoin d'oxygène aussi pour fonctionner. Donc première des choses, c'est bien décompacter son terrain. Donc nous, par exemple, quand on plante des jeunes arbres, on vient décompacter sur une surface de 4 mètres carrés jusqu'à 70 de profondeur. Donc là, on vient bien ameublir la terre sans forcément la retourner. On essaye de respecter les horizons du sol aussi, c'est pareil, on essaye de respecter ça. Pas mettre la bonne terre, entre guillemets, au fond du trou, comme des fois on peut voir. Parce que voilà, il faut respecter un peu le fonctionnement de la décomposition, de la matière qui fabrique l'humus. Donc bien décompacter son terrain. Ensuite, après, c'est faire un trou qui soit bien adapté au volume des racines de l'arbre que l'on va planter. Et surtout pas chercher à faire rentrer les racines dans un trou trop petit, parce qu'on risque de les recourber, de les remonter vers le haut, et que c'est pas forcément bon. Il faut essayer de respecter bien l'architecture racinaire. Bien respecter, j'en ai parlé tout à l'heure, la position du collet, donc la partie qui différencie les racines du tronc de l'arbre, pour que le collet soit bien au niveau du sol, et pas en dessous ni trop au-dessus.
Il y a beaucoup de choses à avoir en tête, en fait.
Oui, il y a beaucoup de choses et j'ai pas terminé. Après, si vous plantez du racine nu, eh bien, il y a un peu l'habillage des racines. Donc, il faut retailler un petit peu les racines, garder bien le petit chevelu. C'est ça qui est important. Quand on choisit aussi des végétaux racine nu, il faut bien faire attention aux végétaux. Nous, quand on les réceptionne, on vérifie s'il y a bien un bon chevelu racinaire, ce qui va permettre le redémarrage de la plante. Et puis, on les trempe. Avant de les planter, on les trempe dans du pralin. Le pralinage, historiquement, c'est un mélange de terre, de bouse de vache et d'eau. Donc on a une espèce de faire une purée assez épaisse et on trempe les racines là-dedans et ça va permettre d'améliorer la reprise des plantes. Et si on ne peut pas avoir ça, on trouve dans le commerce aujourd'hui des mélanges exprès qu'on appelle du pralinage, là, qui sont avec des hormones de croissance pour les racines et qui permettent d'améliorer aussi la reprise des végétaux.
Donc effectivement, il est important de bien se renseigner avant de planter un arbre. En tout cas, une fois qu'on a notre arbre, alors c'est super, mais faut l'entretenir. Comment ça s'entretient un arbre ?
Alors, moi je dis toujours qu'un arbre pour vivre, il n'a pas besoin d'être taillé. Les arbres sont présents depuis bien plus longtemps sur Terre que nous et ils n'ont pas attendu qu'on arrive pour bien se développer, donc la preuve est là. Maintenant, si on taille les arbres, c'est pour bien répondre à des objectifs particuliers. Quand on plante des arbres bord de route, nous l'objectif c'est plutôt d'avoir des grands arbres avec les premières branches qui soient au-delà du gabarit des camions, donc les premières branches à 5 mètres de hauteur, on va dire, pour faire une moyenne. Et 5 mètres de hauteur, c'est pas quand on plante l'arbre, quand on plante l'arbre, pardon, on n'a pas les 5 mètres de hauteur déjà atteints. Donc, il faut accompagner le développement de l'arbre. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la taille de formation. Et la taille de formation, elle a lieu tout le temps qu'on n'a pas obtenu la forme que l'on souhaite avoir. A contrario, si vous plantez des fruitiers, vous allez plutôt chercher à faire étaler les branches à l'horizontale, parce qu'on sait que de faire pousser les branches à l'horizontale va plus favoriser la production de bourgeons à fruits et favoriser la production de fruits.
Et donc ça, c'est pareil, c'est plutôt à faire en hiver, c'est plus facile de le faire à cette période-là de l'année ?
Oui, c'est plus facile parce qu'on voit mieux, on parle d'architecture aussi des arbres, donc on voit mieux l'architecture de l'arbre et on voit mieux comment ce qu'on doit tailler ou pas tailler. Quand on a les feuilles, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne voit pas la ramure, donc ça, c'est moins facile. Mais nous, on fait faire de la taille en verre, mais voilà, donc par des spécialistes. Mais c'est quand même plus simple de le faire en hiver. Et puis après, il y a des tailles qui peuvent être assez sévères, vaut mieux les faire en hiver puisque la plante va repartir sur ses réserves.
Et comment vous faites pour entretenir les milliers d'arbres du département ? Comment vous faites pour organiser ça ?
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une surveillance en continu du patrimoine pour vérifier qu'ils soient en bonne santé et pas dangereux. Et puis, quand on les arbres que l'on plante, on a un suivi chaque hiver, on se programme des interventions de taille de formation, justement. Et donc ça, c'est des tailles que l'on fait en régie nous-mêmes, donc avec des outils sans grimper dans les arbres. On arrive à faire de la taille jusqu'à 4-5 mètres de hauteur assez facilement, avec des perches et des scies sur perche, des échenilloirs, des sécateurs. Donc ça, on le fait en régie. Et puis après, quand l'arbre devient trop grand, là, on fait appel à des spécialistes des grimpeurs et lagueurs, des arboristes grimpeurs et lagueurs, qui ont les capacités, je dirais, à se déplacer avec des cordes dans les arbres ou des nacelles et qui vont aller entretenir nos arbres de grand développement.
Voilà. Donc planter, entretenir et parfois abattre. Pour quelles raisons est-ce que vous devez parfois abattre vos arbres ?
Eh bien, parfois, nul est éternel, et les arbres aussi. Et des fois, on peut avoir des arbres qui deviennent dangereux. Par peut-être des antécédents de taille, mais qui peuvent remonter à très longtemps, qui n'étaient pas très opportunes. On peut avoir eu des travaux à proximité, il peut se passer plein de choses autour d'un arbre, donc parfois on peut être amené à avoir un arbre qui devient dangereux parce que sa structure mécanique fait défaut et on ne peut pas la corriger, par des travaux d'élagage, et à ce moment-là on est obligé d'abattre les arbres. Donc en général les arbres qu'on abat, c'est des arbres qui sont vraiment en très mauvais état. Et puis après, quand on peut, on essaye de replanter à proximité ou à côté.
Alors justement, mais quand on n'est pas un professionnel, quand on a un arbre dans son jardin, dont l'état nous inquiète un peu, mais on n'est pas sûr s'il faut vraiment l'abattre, comment on repère justement un arbre qu'il faut abattre facilement ? Comment on le repère facilement ?
Facilement, il faut avoir quelques connaissances, mais déjà quand vous voyez certains champignons qui peuvent fructifier au pied de l'arbre ou sur l'arbre, maintenant il y a quand même des outils d'identification des champignons qui peuvent permettre de savoir un petit peu ce qu'on a et ce que ça peut faire comme dégâts sur l'arbre. Donc c'est pas forcément toujours des dégâts, hein, ça peut être des champignons qui n'ont aucune incidence sur la structure de l'arbre, mais on sait reconnaître des champignons qui peuvent avoir une activité de dégradation du bois assez importante qui peuvent créer des problèmes. Donc il y a des champignons assez connus, l'armillaire, le ganoderme, voilà, des champignons comme ça. Après, on peut aussi avoir d'autres, on peut voir des fissures, on peut voir des cavités. Alors attention, cavité, ça ne veut pas dire que l'arbre est dangereux. Après, il faut arriver à doser si la proportion de bois sain sur le diamètre de l'arbre est assez suffisante pour tenir la structure ou si ça devient trop limite et que là, il y a un risque de rupture. Il faut imaginer un peu un arbre comme un bateau. Vous avez le houppier, c'est la voile. Vous avez le tronc, c'est le mât. Et puis les racines, c'est la coque de l'arbre. Et puis vous imaginez le vent quand il prend dedans. Et s'il y a trop de contraintes dans la voilure et qu'il y a trop de contraintes qui se transmettent sur le mât, le tronc, ça peut casser à cet endroit-là.
En tout cas, faut toujours faire appel à des professionnels pour abattre l'arbre.
Oui, parce que souvent, c'est des grands arbres déjà. Et souvent, on est en milieu fréquenté. Donc ça peut être du bord de route, ça peut être des collèges, etc. Donc ça demande quand même aussi des techniques particulières. On peut des fois abattre assez facilement, mais des fois, il faut aussi faire de la rétention, branche par branche, démonter les arbres parce qu'il y a des choses autour qui peuvent être abîmées.
Et alors, pour finir sur une note positive quand même, j'imagine que vous plantez plus que vous n'abattez.
Oui, en fait, vraiment, ça reste assez exceptionnel, les abattages d'arbres en général. Après, il faut faire le distinguo entre l'abattage d'un arbre et le recépage sur des... Vous pouvez voir des fois en bord de route où on fait des coupes à ras le sol de la végétation. Donc là, c'est des travaux de recépage, c'est de la régénération, ça repart de souche après. Donc là, on ne supprime pas l'arbre, on garde la souche. Et puis dans le cadre effectivement de notre politique 10 000 arbres, là on est à, je dirais, à, depuis 5 ans, à plus de 20 000 arbres plantés. Que ce soit tout confondu, hein, et puis plus de, aussi on plante des arbustes, donc ça peut être, je crois, on est à peu près à 30 000 arbustes plantés. Voilà.
Je vous remercie Jean-Charles Gélan, gestionnaire du patrimoine arboré du département de la Sarthe. Merci beaucoup.
Merci à vous.